Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Зустрічі з оперною студією.
歌剧工作室的约会。
Opera Studio Rendezvous.
Stefan Empreitung vom Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Встречи с оперной студией.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
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 Eh bien, chers amis auditrices et auditeurs, bonjour en ce grand jour très peu ensoleillé, mais avec tout le soleil que nous avons dans le cœur, nous recevons, enfin je reçois, je ne parle pas encore à la... je ne suis pas encore le roi soleil. Je reçois Yanis Gossin, ténor de la promotion 22-23 de l'Opéra Studio. Bonjour Yanis.
Bonjour Sandrine.
Alors, l'Opéra Studio, petite révision, parce que c'est toujours bien de revenir aux bases. L'Opéra Studio est une cellule de formation pour jeunes artistes lyriques, chanteurs, pianistes, chefs de chant, ainsi que chefs d'orchestre, qui est basée à la Manufacture de Colmar, c'est-à-dire à la Comédie de Colmar, et qui fait partie de l'Opéra National du Rhin. Et donc, je reçois aujourd'hui, comme je vous le disais, Monsieur Yanis Gossin, pour un petit peu mieux le connaître, pour connaître un petit peu son actualité, enfin, tout ça. Depuis quand fais-tu de la musique, cher Yanis ?
Je crois depuis l'âge de 5 ans. Mes parents m'avaient inscrit à l'éveil musical au conservatoire de Mulhouse.
Ah bah voilà, un musicien, c'est vrai, c'est vrai.
Enfin, niçois, mais grandi à Mulhouse.
Ah, quand même, un petit peu voyagé déjà, dans ton jeune âge. Et donc, dans ta famille, tout le monde faisait de la musique ou tu étais le petit garçon à qui on a donné cette chance ?
Alors, j'ai un grand frère de 2 ans, mon aîné, qui lui aussi était au conservatoire. Mais mon père a fait un peu de piano, mais il était surtout dessinateur, architecte. Et ma mère n'a pas fait de musique, mais elle était danseuse.
Ah oui, milieu artistique quand même.
Quand même, voilà.
Ah oui, bien sûr. Et alors, quel a été l'élément déclencheur ? Est-ce que c'est ta maman qui a dit, bon, allez, tes parents ont dit, Yanis va faire de la musique ? Ou c'est toi qui as demandé, ou tu as entendu une musique qui t'a plu, puis tes parents se sont dit, tiens ?
Je crois que mes parents l'ont fait parce que c'était pour qu'on ait une éducation artistique. Et parce que mes parents sont tous les deux férus d'opéra. Ma mère a fait beaucoup de figuration et même du chœur, on va dire, en supplément à l'opéra. Dans les opérettes, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'ils voulaient qu'on ait. Et après, à nous de décider si on continue ou pas, une fois l'âge de raison arrivé, on va dire.
Ah oui, c'est ça. C'est une très jolie chance qu'on t'a donnée.
Ouais.
Et en fait, tu as vu ta maman sur les planches, alors ?
Alors, non, parce que... Alors, il faut que je me souvienne exactement de l'histoire. Mais en fait, quand elle a eu mon frère, elle a commencé à enseigner. Donc, elle a eu une école de danse à Nice.
Oui.
Sur le port, ça donnait sur le port de Nice même, donc très sympathique. Et donc j'étais dans le ventre encore quand elle enseignait. Je crois qu'on est arrivé en Alsace quand j'avais 3 ans. Donc non, je ne l'ai pas vue danser, même si elle a beaucoup dansé devant moi. Elle nous a fait danser dans le salon, etc., de choses. Mais ouais. Non, je ne l'ai pas vue sur les planches.
Ah bon, c'est dommage. Écoute, elle te verra toi sur les planches.
Oui,
ça c'est bien. Alors, comment donc tu es allé donc au jardin musical pour les enfants. Est-ce que tu as pris des cours de chant ? Est-ce que tu te souviens de ton premier cours de chant ou bien de ton premier cours d'instrument ? Parce que peut-être es-tu instrumentiste.
Oui, parce que à 7 ans, j'ai commencé le cor d'harmonie. Parce que c'était très rigolo, ça avait une forme d'escargot, donc moi je trouve ça... Et puis c'est joli, c'est un bel instrument. Donc voilà, la prof était très sympa. Et premier cours de chant, chant lyrique.
Oui.
Du coup, bah oui, je m'en souviens, j'avais 21 ou 22 ans. Et j'en garde un très bon souvenir, très curieux. J'étais évidemment déjà allé à l'opéra, mais chanter moi-même, surtout que je venais pour... parce que moi, j'avais un groupe de rock alternatif et je voulais chanter un peu mieux. Et donc, j'étais venu plutôt avec cet objectif-là. Donc, j'étais très curieux.
Ah, d'accord. Donc, tu voulais chanter du rock et finalement, tu te retrouves à chanter de l'opéra.
C'est ça.
Ouais. Comme quoi ?
Voilà, comme quoi.
Comme quoi, c'est pas si éloigné. Voilà. <ça. rire> Alors, eh bien, pour illustrer, on va faire une petite pause musicale pour illustrer cette émission. Je vous propose d'écouter un extrait de l'ouverture de La Flûte Enchantée du génialissime Mozart. Un extrait seulement, j'en suis désolée, mais parce qu'elle est très très longue. Mais si vous voulez écouter le tout, vous pourrez venir l'écouter à l'Opéra du Rhin très bientôt. Je vous en parle juste après. Très bel extrait de cette ouverture de la flûte enchantée jouée par l'Orchestre National de France dirigé par David Afkam. Et c'est un enregistrement qui a été réalisé au Théâtre des Champs-Élysées le 21 novembre 2013. Alors, cher Yanis, tu es corniste, donc nous n'avons malheureusement pas entendu de solo de cor dans cet extrait. Mais tu es également ténor, et c'est bien en cette qualité que je te reçois aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'un ténor ?
Alors, ténor, c'est une voix d'homme aiguë. C'est pas un contre-ténor, donc c'est pas non plus la plus aiguë, mais c'est cette voix assez particulière. Je pense que tous les ténors diront toujours ça quand on écoute. Je pense à Alania ou même Benjamin Bernheim pour plus récent qui parle de la voix de ténor. On dit toujours que c'est une voix particulière parce qu'effectivement, on a cette base qui est un peu commune au baryton. Mais après, pour monter, on a une espèce de petite tambouille, une petite alchimie assez singulière et particulière, qui est tout le nœud de la chose.
C'est ce qu'on appelle la technique.
Exactement.
La technique vocale, et c'est bien pour ça qu'on travaille beaucoup pour arriver dans toutes les voix, mais également pour travailler cette voix de ténor qui, effectivement, n'est pas une voix parlée naturelle. Disons que la voix de baryton est plus proche de la voix parlée des messieurs, et que la voix de ténor, effectivement, a ça d'un petit peu, pas artificiel, c'est pas le mot, d'un peu particulier, c'est qu'on va monter là-haut dans une tessiture assez aiguë et on essaie quand même de garder la rondeur, la richesse des harmoniques, etc. Ouais. Et c'est un gros travail parce qu'il faut faire cette connexion avec ce médium et cet aigu. Et effectivement, c'est un travail intéressant, je pense, et que tu es venu chercher peut-être à poursuivre à l'Opéra Studio, parce que tu t'es présenté l'an dernier, à l'Opéra Studio. Les auditions ont eu lieu la saison dernière, et tu es arrivé au mois d'août de cette année à l'Opéra Studio. Et qu'avais-tu en tête quand tu t'es présenté, et finalement, qu'es-tu venu chercher à l'Opéra Studio?
Me connaissant, je pense que c'est beaucoup de défis, parce que je sais que j'ai besoin d'objectifs et de défis pour aller plus loin, m'améliorer, briser un peu des barrières que j'ai dans ma tête. Et avec une structure comme l'Opéra Studio et l'Opéra du Rhin, on est gâtés. Moi, en tout cas, c'est toujours des choses où... Il y a un rythme aussi qui est très effréné, qui est génial, et qui fait qu'on a... J'ai moins le temps de me poser des questions, en fait.
Oui, c'est ça, il faut agir, il faut que ça marche, il faut trouver des solutions.
Exactement,
tout de suite.
Et donc j'ai pas à me bloquer, etc. Puis on est entouré de gens comme toi, hein, qui nous conseillent très bien, puis d'autres artistes aussi, que ce soit les autres chanteurs du studio, les chefs de chant, qui sont de très bons conseils et d'excellents musiciens. Et puis évidemment, comme là, par exemple, sur la flûte, on est en contact avec des gens qui sont déjà vraiment depuis plusieurs années, voire parfois très longtemps, dans le métier. Et c'est riche aussi, c'est précieux.
Oui, ça c'est certain, parce que vous avez effectivement la chance, lorsque vous êtes à l'Opéra Studio, de pouvoir participer à des productions de l'Opéra National du Rhin, c'est-à-dire que vous êtes en situation professionnelle, enfin vous êtes dirigé par le chef qui est invité sur la production, avec des artistes confirmés, des metteurs en scène, enfin, et toutes les équipes artistiques et techniques qui sont autour de l'élaboration et qui sont nécessaires pour élaborer un opéra, un spectacle d'opéra. Et donc, puisque tu en parles, effectivement, nous avons écouté un extrait de La Flûte Enchantée, parce qu'en ce moment, tu es en répétition avec deux autres de tes camarades de l'Opéra Studio, qui sont Oleg Volkov et Ling Yang. Vous êtes donc tous trois sur la production de La Flûte Enchantée. Pardon, vous êtes quatre. J'ai oublié notre chef d'orchestre assistant, Sami Rachid. Donc, vous êtes quatre sur cette production. Ça veut dire quoi concrètement? Que se passe-t-il? Quel est ton quotidien?
Quel est mon quotidien? Alors actuellement, mon quotidien, c'est de recevoir mon planning la veille au soir pour le lendemain.
Oui, très bien.
et ensuite, bah, c'est simplement d'être prêt, de me présenter et de faire ce qu'on me demande au niveau de la mise en scène, de la musique, mais également d'être force de proposition. C'est important également.
Oui.
Évidemment, je dois arriver avec une proposition musicale et d'interprétation devant le chef et un peu le metteur en scène. Lorsqu'on fait la toute première lecture tous ensemble de l'œuvre, mais même une fois qu'on est sur scène, c'est pas figé, c'est-à-dire que le metteur en scène, il a une idée déjà très dessinée, mais il y a plein de choses qui sont encore à peaufiner, à détailler, que ce soit les rapports, même pour un personnage secondaire comme le mien, il y a plein de choses, que ce soit dans les regards ou dans les interactions que je peux avoir sur scène, même silencieuse, avec d'autres personnages. Ça, c'est des choses qu'il faut... que je peux proposer, etc., et qui sont à discuter avec le metteur en scène. Et c'est hyper intéressant. On n'est pas juste des suiveurs, quoi.
C'est ça. Mais c'est ça, le métier de metteur en scène. En fait, le metteur en scène arrive avec une idée évidemment très précise de ce qu'il veut faire. Bien sûr, il travaille ça des mois à l'avance, avec son décorateur, avec tout un tas de personnes autour de lui qui sont là également à force de proposition et qui sont là pour réaliser et voir ce qui est réalisable d'une manière technique. Et puis... il y a aussi le fait que ce metteur en scène, une fois qu'il a les musiciens et les chanteurs devant lui, ben il a des aides humains, il a des comédiens, parce que chanteur lyrique, c'est chanter et jouer la comédie. Et donc, on fait avec la personnalité de l'artiste qu'on a face à soi. Et c'est une grande intelligence. Et donc, il s'adapte, mais en même temps, c'est pour tirer le meilleur de chacun de vous. Finalement,
oui, tout à fait.
Pour finalement faire son projet.
Ouais. Et dans ce contexte, c'est vraiment intéressant, d'autant plus parce qu'il y a deux castings pour certains rôles principaux. Et donc, c'est drôle parce que selon les solistes, eh bien, certaines scènes ne se ressemblent pas tout à fait.
Les interactions, c'est un peu différent.
Voilà, même parfois les déplacements, etc. Ouais. Parce que certains ont une autre vision de leur personnage. Et oui,
mais c'est toute la richesse. C'est pour ça qu'on répète longtemps.
En fait,
très long, ce travail-là. Il faut apprendre à se connaître.
Et
pourtant, quand vous arrivez, le premier jour, tous les chanteurs connaissent parfaitement leur partition, par cœur, parfaitement leur texte, parce qu'ici, il y a du texte également. Donc, en fait, tout ce travail n'est que le travail de mise en scène. Le travail musical a été fait en amont. Donc, quand on dit qu'on répète 5 semaines, c'est pas vrai. On répète 5 semaines en mise en scène, mais avant, on travaille pour le savoir par cœur, on se renseigne sur l'ouvrage, enfin, etc. Et c'est là qu'on a besoin des chefs de chant, notamment, pour préparer nos rôles, pour préparer vos rôles, parce que je ne suis pas encore chanteuse, et tant mieux pour tout le monde. Alors, je propose maintenant d'écouter un extrait, justement, des deux hommes armés, c'est-à-dire une partie de ce que tu vas chanter sur le plateau de l'Opéra National du Rhin. Tu seras en compagnie de ton collègue Oleg Volkov, qui lui est baryton basse, donc une voix plus grave, n'est-ce pas? Et donc, on écoute cet extrait des deux hommes d'armes de la Flûte Enchantée.
Thank you.
très bel extrait que cet extrait des deux hommes armés chanté par Alan Hawke et Graham Broadbent. Je suis désolée, j'espère qu'ils ne sont pas à l'écoute. En tout cas, s'ils sont à l'écoute, qu'ils pardonnent ma prononciation un petit peu aléatoire. Cet extrait était dirigé par Sir Colin Davis. Donc, dans cet extrait de La flûte enchantée des hommes armés. Donc, je ne résiste pas au plaisir de vous donner le texte de cette magnifique page de musique, qui est en même temps une très, très belle page de poésie. Voilà ce que disent les deux hommes armés. Celui qui emprunte cette voie pleine d'embûches sera purifié par le feu, l'eau, l'air et la terre. S'il sait surmonter la crainte de la mort, il s'élèvera de la terre vers le ciel. Dans une clarté nouvelle, il pourra dès lors se consacrer tout entier au mystère d'Isis. Donc ces deux hommes armés conseillent Tamino, qui est à la recherche de sa bien-aimée et qui veut la libérer. Quels enseignements, cher Yanis, as-tu tiré de par exemple, de cette expérience de la flûte enchantée et des expériences précédentes? Quels ont été tes enseignements successifs qui ont fait que tu es à ce niveau de maturité aujourd'hui? Question difficile.
Oui, question difficile.
Parce que, en fait, tu nous disais au début de l'émission que tu voulais, toi, faire du rock. Tu as pris ton premier cours de chant pour faire du rock. Et donc, quand même, ton parcours t'a amené jusqu'à chanter cette musique tellement solennelle et qui est magnifique aussi. Toutes les musiques sont magnifiques, et tant mieux. Et c'est bien la preuve. C'est bien la preuve qu'on peut aimer toutes sortes de musiques. Comment ces expériences t'ont mené jusque-là? Est-ce que ce sont des expériences de rencontre avec des personnes ou bien des ressentis que tu as eu toi-même lors de rencontres avec ton prof de chant, par exemple, avec des collègues, avec quelle expérience, tout simplement, depuis le début, depuis la première répétition de la flûte jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que déjà là, tu es nourri d'une expérience un petit peu concrète?
Oui, bah oui, tout à fait.
Sur ta vie comment tu envisages ta carrière de soliste?
Oui, bah, c'est sûr que toutes ces expériences qu'on a sur scène, déjà, bah, on se connaît mieux nous-mêmes, parce que c'est quand même pas un exercice très naturel que de se retrouver comme ça à chanter ou à déblatérer des choses devant plein de personnes.
Oui.
Donc, on apprend à mieux se connaître et à ouais, encore une fois, à relever certains défis, parce qu'évidemment, il y a le stress, il y a la confiance en soi, plein de choses qu'il faut savoir gérer. Et aussi parfois ses autres collègues, ses collègues sur scène, le rapport qu'on a avec eux, etc. Et évidemment, ça nous fait grandir, et évidemment, humainement et en tant que musicien. Je pense qu'on apprend un peu à l'opéra à être un peu tout terrain.
une des raisons, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, c'est-à-dire que on nous dit vas-y, c'est à toi, vas-y, chante. Et on recule plus, il faut y aller.
Oui, voilà.
Donc on se pose plus de questions. À un moment, il faut y aller, on y va.
Tout à fait.
Et effectivement, peut-être que tu te sens peut-être plus calme, j'espère, ou moins tu connais mieux, tu sais mieux gérer ton stress, etc., que peut-être le premier jour de la répétition où on arrive, personne ne se connaît, on est stressé, on ne connaît pas le chef, on ne connaît pas les autres solistes, on ne connaît pas le metteur en scène. Souvent, le premier jour de répétition, en plus, cerise sur le gâteau, on a le directeur général qui est là pour écouter. Et donc, on est toujours un petit peu stressé. Donc, j'y étais moi aussi.
Oui.
Je peux dire que la première musicale s'est très bien passée pour toi. Mais est-ce que depuis, chaque fois que tu rechantes ça, maintenant mis en scène, est-ce que tu te sens de plus en plus en confiance? Est-ce que tu sens qu'il y a un chemin parcouru?
Oui, parce que... Et c'est en même temps, ce qui est un peu dangereux, c'est qu'il y a presque un côté... on va dire d'habitude, parce qu'en enfin oui. de l'habitude
oui.
parce que on est amené à devoir le faire, il nous a demandé de le faire à tel endroit sur scène, puis il nous a déplacé, il nous a mis encore ailleurs, puis d'un coup en haut sur le décor, etc. Donc ça, finalement on arrête de se poser des questions, et en même temps, une fois qu'on doit vraiment le chanter, ben on n'est pas juste des machines à faire, donc il faut le faire, mais retrouver toujours l'âme de ce qu'on dit et de comment on le dit. Donc c'est voilà, c'est toujours revenir quand même, malgré tout, un peu au fond des entrailles, en faisant le tri avec le stress et tout ça.
Voilà, tu vas au plus profond de toi pour pouvoir être stable, finalement, émotionnellement. Pour pouvoir,
oui, c'est ça.
Pour pouvoir profiter à la fois de ce moment et puis d'avoir un certain recul pour pouvoir le gérer.
Ouais, c'est ça. C'est deux choses totalement différentes, mais qu'il faut avoir pour gérer ce moment si particulier, quoi.
Oui, je comprends, je comprends. Alors, un autre air qu'il faut pouvoir gérer tout à fait avec beaucoup de, comment dirais-je, qu'il faut savoir gérer tout court, excusez-moi, c'est l'air de la Reine de la Nuit. Alors, la Reine de la Nuit, c'est pas du tout pour ténor, c'est pour une soprano coloratour, c'est-à-dire une soprano qui arrive à aller faire des sons un petit peu stratosphériques là-haut, avec une vitesse presque aussi importante que celle de la lumière. Vous allez voir ça. Je vous propose d'écouter l'air de la Reine de la Nuit, chanté par mademoiselle Patricia Petitbon. Mademoiselle Patricia Petitbon dans l'air de la Reine de la Nuit. C'est dirigé par l'orchestre Köln, dirigé par Daniel Harding. Et c'est chez Deutsche Grammophon, si vous voulez retrouver l'enregistrement tout entier. Mon cher Yanis, nous arrivons à la fin de ce rendez-vous de l'Opéra Studio. Quelques petites questions quand même pour la route. Par exemple, la première, comment imagines-tu ta vie d'artiste ?
Bah, j'espère bien fournie déjà. Certainement
rempli de beaucoup de contrats,
oui,
pour avoir de belles expériences.
Voilà, c'est ça. Et voilà, être forcément en vadrouille souvent, etc.
Et ça ne t'effraie pas, la vadrouille, justement?
Bah, un peu, parce que je crois que j'ai la singularité dans cette promo de l'Opéra Studio d'être papa.
Et oui.
Voilà. Donc forcément, c'est un peu une peur. Oui, c'est un petit pincement au cœur parfois, mais en même temps, bah, c'est le choix que j'ai fait. Donc là-dessus, je suis très au clair.
Même d'accord.
Si, pour ma femme et moi, c'est vrai que parfois c'est fatigant, c'est compliqué, mais voilà, j'espère aussi pouvoir transmettre cette passion-là à mes enfants, enfin à mon fils pour l'instant en tout cas.
D'accord. Et quand tu chantes, il t'écoute ? Comment il réagit quand tu t'entends chanter ?
Alors dans mon appartement, je peux pas chanter à pleine voix, mais on chante beaucoup de choses.
D'accord.
On chantonne beaucoup de choses, même des airs d'opérette, d'opéra, donc et il adore ça. Donc
C'est des airs d'opérette, d'opéra déjà. Quel âge il a ? Il est tout jeune ?
Il a un an et demi.
Ah très bien, ouais. Tu commences tôt là.
Ouais, mais
c'est bien, non mais c'est bien, mais c'est très bien. C'est toujours amusant d'entendre un petit bouchon chanter un air d'opéra, c'est incroyable.
Oui.
Bah oui, parce que lui c'est pareil, ça pourrait être une chanson et
ouais.
Pour lui c'est une chanson. Alors le métier de nomade, eh bien on peut parler d'un nomade célèbre qui est Papageno. Papageno, c'est un oiseleur, c'est un des personnages de La Flûte Enchantée que vous pourrez venir applaudir à Strasbourg à partir du 8 décembre et à Mulhouse, à la Cine, à partir du 5 janvier. Et vous y retrouverez Yanis dans les rôles d'homme d'armes et de prêtre. Je voulais vous faire écouter, donc, avant de nous quitter... Oh, pardon, excusez-moi, j'en bafouille, mais avant de prendre congé de vous, je voudrais remercier chaleureusement notre cher Francis, qui réalise avec beaucoup de professionnalisme et de patience nos émissions, les rendez-vous d'Opéra Studio. Et il faut savoir que de la patience... Voilà, avec moi, il faut en avoir. On a un petit peu les informations au dernier moment, mais toujours impeccablement mis sur les ondes par notre cher Francis. Merci aussi à vous, très chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Et donc, quittons-nous gentiment avec le célébrissime duo Papageno-Papagena de La Flûte Enchantée de Monsieur Mozart. Donc, c'est Papageno qui cherche désespérément sa Papagena. Et je pense qu'ils vont la trouver finalement. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Papageno.